Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 21 octobre 2024. En direct de Washington, Rosine Mounedel. Pour commencer, les titres. Dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 disent avoir pris contrôle de Kanembe après de violents combats avec les Wazalendo, une milice pro-gouvernementale. Au Mozambique, une manifestation pour dénoncer des fraudes lors de la présidentielle a été dispersée au gaz lacrymogène dans la capitale, Maputo. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken retourne au Proche-Orient dans l'espoir de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ici aux États-Unis, à quelques semaines des élections, le président Joe Biden annonce son intention d'élargir l'accès à des produits contraceptifs en vente libre. Et dans notre partie magazine, au Burundi, plusieurs quartiers de la capitale économique Bujumbura font face au manque continu d'eau et d'électricité. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Dans l'est de la RDC, le cessez-le-feu a été rompu hier après une semaine d'accalmie avec la reprise de violents combats entre les rebelles du M23 et les Wazalendo, une milice pro-gouvernementale. Les rebelles disent avoir pris contrôle de la ville de Kalembe dans le nord Kivu. Le point avec Eddy Sango.
Les habitants témoignent que des combats à l'arme lourde ont opposé les rebelles du M23 et les Wazalendo, patriotes en Swahili, à Kalembe, ville de la province du Nord Kivu. Des sources sanitaires ont indiqué avoir enregistré 14 civils blessés par balles. Les cessez-le-feu obtenus par la médiation angolaise fin juillet, entrés en vigueur les 4 août, visaient à faire taire les armes dans les conflits opposant l'armée congolaise à la rébellion du M23 qui s'est emparée des vastes pans des territoires dans le Nord Kivu depuis fin 2021. Les pourparlers sous la médiation angolaise entre la RDC et les Rwandais accusés de soutenir les rebelles piétinent. Une nouvelle rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, accompagnée des experts sécuritaires de chaque camp, est prévue les week-ends prochains à Luanda.
Le président camerounais Paul Biya est arrivé lundi à Yaoundé après plusieurs semaines d'absence de son pays et de rumeurs alarmantes sur sa santé. Le 8 octobre, le gouvernement camerounais avait assuré qu'il se portait bien et rejoindrait le Cameroun dans les prochains jours. Le ministre de l'administration territoriale avait ensuite formellement interdit aux médias d'évoquer son état de santé en menaçant les contrevenants de poursuite. Au Tchad, Succès Masra, le président des transformateurs, parmi premier parti d'opposition, a annoncé son refus de participer aux élections législatives et communales prévues le 29 décembre, dénonçant un scrutin joué d'avance. Il s'exprimait lors d'une cérémonie de commémoration du massacre du 20 octobre 2022. Au moins 300 jeunes ont été tués par balles selon les ONG nationales et internationales. Le pouvoir avait, lui, fait état d'une cinquantaine de victimes sans donner de bilan plus précis. Au Mozambique, une manifestation a été dispersée au gaz lacrymogène à Maputo. La capitale a pris ce lundi des airs de ville morte après un appel à la grève générale lancé par l'opposant Venancio Mondlane pour dénoncer des fraudes lors de la présidentielle. Le point avec Jean-Roger Billon.
Cette manifestation survient 2 jours après l'assassinat de 2 opposants, dont l'avocat du candidat Venancio Mondlane. La tension était à son comble dans la capitale. Les grandes artères de Maputo, généralement densément embouteillées, ont été vides dans la matinée. Des dizaines de manifestants et de nombreux journalistes ont brièvement défilé le long d'une grande artère avant d'être dispersés par des policiers anti-émeutes qui ont tiré des grenades lacrymogènes. Candidat à la présidentielle, adossé au parti Podemos, Venancio Mondlane, 50 ans, avait appelé à manifester pour contester les premiers résultats de l'élection montrant le Frelimo, parti au pouvoir depuis 49 ans, en tête. Venancio, comme l'appelle la rue, a finalement appelé chacun à rentrer chez soi avant de courir aussi se mettre à l'abri. Les commerces de Maputo sont restés fermés et des hélicoptères ont survolé la capitale d'un million d'habitants. Les résultats de l'élection présidentielle et législative du 9 octobre doivent être officiellement annoncés cette semaine.
L'ONG Médecins sans frontières a annoncé lundi suspendre ses activités à Dibo, importante ville du nord du Burkina Faso, encerclée par des groupes djihadistes pour des raisons sécuritaires. C'est après des incidents ayant visé les centres de santé et les locaux de l'organisation. Un responsable de MSF a rapporté une augmentation de ces incidents cette année, imputée à des groupes armés. Nous avons besoin de conditions de sécurité adéquates pour permettre à nos équipes de poursuivre leur mission et apporter du soutien aux communautés piégées par l'insécurité et la violence, a de son côté affirmé sur X Moussa Ousmane, responsable des programmes Afrique de l'Ouest et Centrale pour MSF. Le gouvernement kényan a annoncé lundi avoir rapatrié vendredi 4 réfugiés vers la Turquie en dépit de l'appel d'Amnesty à leur libération immédiate en raison de risques de violations graves de leurs droits en cas de refoulement. Les autorités kényanes ont indiqué avoir accédé à la demande turque sur la base des solides relations historiques et stratégiques entre les deux pays et déclaré avoir reçu l'assurance des autorités turques que les 4 individus seront traités avec dignité conformément au droit national et international. Toujours au Kenya, un immeuble résidentiel de 8 étages s'est effondré dimanche dans la capitale Nairobi, piégeant plusieurs personnes sous les décombres, ont indiqué les services d'urgence et des responsables locaux. L'immeuble situé à Kahawa West, un quartier densément peuplé au nord de la capitale, avait été condamné à la démolition, ont indiqué les autorités du comté de Nairobi. Les locataires avaient reçu l'ordre d'évacuer les lieux dans les 2 semaines.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken retourne lundi au Proche-Orient. Washington s'efforce de relancer les négociations en vue d'un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre de Gaza après la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. Alexandrine Hollognon.
D'après un communiqué du département d'État, Antony Blinken va discuter avec les dirigeants de la région de l'importance de mettre fin à la guerre de Gaza et parvenir à une solution diplomatique entre Israël et le Hezbollah. Le voyage du chef de la diplomatie américaine doit commencer par Israël, selon le département d'État qui n'a pas indiqué les autres destinations. Il s'agira de son 11e voyage au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Lors de sa dernière visite en août, il avait prévenu qu'il s'agissait peut-être de la dernière chance pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Par ailleurs, Amos Hochstein, émissaire spécial américain, est à Beyrouth lundi. Lors de sa première visite, il a dit travailler sans relâche pour un cessez-le-feu après un entretien avec le président du Parlement libanais, Nabi Berri, allié du Hezbollah. Il a proposé l'application de la résolution 1701 de l'ONU qui avait mis fin à la guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006 et stipule que seule l'armée libanaise et les casques bleus doivent être déployés dans le sud du Liban, frontalier d'Israël.
Plusieurs centaines de militants d'extrême droite, dont des députés et ministres, se sont rassemblés lundi près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza pour réclamer l'installation de colonies juives dans la bande de Gaza. La foule était réunie à l'appel d'élus du Likoud, le parti du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, de partis et d'organisations en faveur de la colonisation. Le retour éventuel d'une présence civile juive dans ce territoire où vivent 2,4 millions de Palestiniens a été rejeté par M. Netanyahou, mais il est évoqué par les ministres les plus radicaux du gouvernement. Le président Joe Biden a annoncé ce lundi son intention d'élargir l'accès aux produits contraceptifs en vente libre à un peu plus de 2 semaines de l'élection du 5 novembre aux États-Unis, où la question du droit à l'avortement demeure une question clé. Jacques Aristide.
Cette nouvelle mesure contribuerait à garantir que des millions de femmes bénéficiant d'une assurance maladie privée puissent accéder à la contraception gratuite dont elles ont besoin, a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. La mesure proposée élargirait la couverture de la contraception sans frais pour 52 millions de femmes en âge de procréer bénéficiant d'une assurance maladie privée, a ajouté la Maison-Blanche. Aujourd'hui, notre administration propose la plus grande extension de la couverture contraceptive depuis plus d'une décennie, a affirmé de son côté la vice-présidente et candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris. La proposition doit encore être publiée pour recueillir des commentaires du public durant 60 jours avant d'être finalisée. La loi américaine actuelle sur les soins de santé exige que la plupart des régimes d'assurance couvrent gratuitement la contraception, mais elle leur permet également d'exiger une ordonnance. La proposition étendrait la couverture aux produits en vente libre, y compris aux contraceptifs d'urgence.
Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
En Côte d'Ivoire, la production de cacao est attendue à près de 2,2 millions de tonnes pour la campagne 2024-2025 qui a démarré le 1er octobre selon l'agence Ecofin. Cela représenterait une hausse de 10% par rapport aux prévisions de 2 millions de tonnes formulées en juin dernier et une augmentation de 25% par rapport à la récolte de 1,75 million de tonnes au cours de la campagne 2023-2024. Au Cameroun, l'opérateur de télécommunications Camtel a réalisé, selon le site internet ecomatin.net, un bénéfice net de 11,1 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Cette performance s'accompagne d'un versement de 4,6 milliards de francs CFA de dividendes à l'État, une première depuis sa création. Un accord a été trouvé entre l'État français, le groupe pharmaceutique Sanofi et le Fonds d'investissement américain CDR pour le rachat par ce dernier de la filiale commercialisant le Doliprane, médicament le plus vendu en France. C'est ce qu'a annoncé dimanche le ministère français de l'économie.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Football à la une, mais d'abord en coulisses, la CAF tiendra demain mardi sa 46e Assemblée Générale Ordinaire.
Oui, ce sera à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre porte sur des discussions essentielles sur l'avenir du football africain, suivie d'une conférence de presse avec le président de la CAF, Patrice Motsepe. Mais en attendant, le dirigeant sud-africain a entamé depuis hier une série de réunions avec les dirigeants des 6 unions zonales de la CAF, dans la capitale éthiopienne, suivie d'une réunion du comité exécutif qui va garantir l'implication de tous les dirigeants du foot africain dans les délibérations pré-congrès.
Chez les seniors et dans le sable égyptien se joue la CAN de beach soccer.
Le Maroc est le premier qualifié pour les demi-finales grâce à sa victoire 5-2 face au Ghana. Les Marocains enchaînent ainsi après avoir battu la Tanzanie 4-3 samedi dernier. Les Lions de l'Atlas comptent désormais 6 points et sont leaders de la poule A. Demain, ils affrontent leurs hôtes égyptiens qui ont écrasé la Tanzanie 9-3. De leur côté, après avoir été surpris par la novice, la Mauritanie 2-5, le Sénégal a laminé le Malawi 6-1. Les Lions de la Teranga se relancent donc.
Des nouvelles du mondial féminin des moins de 17 ans en République dominicaine.
Les Super Flamingos du Nigeria ont arraché leur ticket pour les quarts de finale en surclassant l'Équateur 4-0 lors de leur deuxième match. Le Nigeria avait réussi son entrée en lice en dominant la Nouvelle-Zélande 4-1. Le Nigeria aura un dernier match de poule mercredi contre les hôtes dominicaines. Difficile par contre pour les autres représentants africains. Après deux défaites en deux matchs, le Kenya déjà éliminé fait face au Mexique aussi out. Toujours mercredi, la Zambie aussi éliminée joue pour l'honneur devant le Japon.
NBA pour finir avec le début demain mardi des matchs de la nouvelle saison.
Sacré au printemps face à Dallas, Boston fait figure d'immense favori pour cette saison NBA 2024-2025. Sans changement majeur dans l'effectif à l'intersaison, les Celtics pourront encore compter sur leur duo Jason Tatum et Jaylen Brown. Finaliste malheureux, les Mavericks restent prétendants au titre tant que Luka Doncic gardera un niveau de jeu exceptionnel. Il avait marqué en moyenne 33,9 points l'an passé avant d'éblouir en play-off. Chez les Sixers de Philadelphie, Paul George complète un trio de stars avec la révélation de la saison passée, Tyrese Maxey et surtout le MVP 2023, Joel Embiid. De leur côté, les Knicks de New York, qui n'ont plus disputé de finale NBA depuis 1999, se prennent à rêver dans le sillage du chouchou du Madison Square Garden, le meneur Jaylen Brunson, champion en 2023 et toujours porté par le double MVP en titre serbe Nikola Jokic. Denver a souffert la saison passée de la baisse du régime des lieutenants du Serbe, notamment le meneur canadien Jamal Murray, et d'un banc pas au niveau. À suivre aussi de près, les Lakers du duo père-fils les Brown et Bronny James, les Warriors de Stephen Curry, entre autres.
Merci à Kuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monedero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Des pluies diluviennes tombées samedi ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale de la République démocratique du Congo. Des rivières sont sorties de leur lit, inondant les rues de Kinshasa. Récit Michel Joseph.
C'était la première grosse pluie de ce début de la saison pluvieuse tombée sur Kinshasa, mégapole d'environ 17 millions d'habitants. Au centre de la capitale, les petites rivières, canaux et égouts ont débordé, inondant les artères, notamment dans le quartier industriel de Limété. Au niveau de la première rue, des habitants qui ont osé sortir à pied se sont retrouvés avec l'eau jusqu'à la poitrine, selon des témoins. Sur au moins deux vidéos, on voit des bus jaunes de transport en commun, surnommés Esprit de mort, être emportés par les eaux en pleine rue.
Ici, c'est l'effet du débordement de la rivière causé par la pluie. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas grand-chose. Souvent, l'eau déborde de la rivière et entre violemment dans les maisons. Cela peut arriver qu'un enfant endormi meure après une inondation. C'est dû à la négligence des autorités qui ne font pas de suivi.
Pour traverser les eaux boueuses, des habitants des quartiers Forgeron et Founa recouraient au service de quelques jeunes pour être transportés sur leur dos ou dans une brouette contre une petite rétribution. Dans les quartiers inondés, les résidents disent redouter la suite des pluies à l'absence de curage des caniveaux et rivières de la capitale.
Avec vitesse, c'est-à-dire qu'on a compressionné quoi, rivière, l'eau ne passe pas. C'est pourquoi que ça déborde. Si ça déborde, ça manque par où passer sans rentrer dans la maison.
Alors que certains habitants de Kinshasa déplorent les dégâts causés par les eaux, d'autres interpellent le gouvernement.
Donc je demande au gouvernement congolais de la bonne volonté et de prendre conscience et d'aider la population.
À Kinshasa, des pluies et des inondations font régulièrement des victimes. En novembre 2019, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort dans la capitale, victimes de pluies diluviennes qui avaient provoqué inondations et glissements de terrain.
Au Burundi, plusieurs quartiers de la capitale économique Bujumbura font face au manque continu d'eau et d'électricité. Des habitants passent des journées et des nuits entières sans eau ni électricité. Cette pénurie persiste alors que le ministère de la Santé a dernièrement communiqué sur la présence du Mpox, virus obligeant le lavage permanent des mains. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Ngurunziza.
Retrouvez-nous sur VOA. Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Cameroun, les usagers de la route s'inquiètent. Au Cameroun, les usagers de la route s'inquiètent du nombre d'accidents de circulation en hausse dans le pays. L'état de dégradation avancée des routes, l'incivisme des conducteurs et les lacunes de la sécurité routière sont mises en cause. Cette situation provoque de vives critiques, même au sein du RDPC, le parti au pouvoir. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Une bande de jeunes sortent de l'épave d'une voiture, un élève rescapé d'un accident de la circulation au quartier Mbouman, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Un gros porteur transportant un conteneur mal attaché s'est renversé sur trois véhicules faisant trois morts. Richard Abega condamne les défaillances de la sécurité routière.
On avait pris une décision qui suspendait la circulation des gros porteurs à partir d'une certaine heure. Et à cette heure où ce camion remorque est en train de passer, c'est l'heure où la plupart des gens vont au travail, les élèves vont à l'école. Il faudrait maintenant que les gens qu'on doit sanctionner se fassent sanctionner et que les sanctions, on veille à ce qu'ils soient appliquées. Le problème, c'est quoi? C'est que chaque gros camion remorque appartient à quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui est bien placé.
Quelques jours avant, 15 personnes sont mortes sur la route dans la région du Sud. Un camion plateau grumier est entré en collision avec un véhicule transportant 22 passagers. La région du Sud, région natale du président Paul Biya, n'a pas elle aussi de bonne route, regrette Mathurin Bidouin, ressortissant du Sud et député RDPC, le parti au pouvoir.
En ce moment même, le ministre des Travaux publics a engagé des travaux sur la nationale numéro 9, section Malmaillot-Saint-Méliman. Nous entendons dire que c'est un entretien confrontatif. Est-ce que c'est normal, 40 ans de pouvoir, que nous soyons encore en train de parler des entretiens confrontatifs sur un axe que le président de la République emprunte à tout moment? Cela nécessite une conscience collective.
Au premier semestre cette année, plus de 3000 accidents de la route ont été enregistrés au Cameroun, causant 256 décès, d'après le ministère de l'administration territoriale. Le mauvais état des routes fait craindre le pire aux voyageurs. Cette dame qui a requis l'anonymat s'inquiète du tronçon de 112 km, reliant Edea à la cité balnéaire Kribi.
La route est catastrophique. On ne parle plus de nid de poule à l'heure, là. C'est les pieds de l'éléphant. Quand la voiture fait un peu un reste, comme vous allez vous renverser. Donc, vraiment que le gouvernement prenne les choses en main pour sauver des vies, pour éviter encore les hécatombes qu'on entend partout, là.
Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoundjemessi, évoque les raisons de l'état avancé de dégradation du réseau routier national.
Une durée de vie accomplie, dont le vieillissement des chaussées et des ouvrages d'assainissement, sans limitation. 2. Une pluviométrie abondante et continue face à des ouvrages d'évacuation dimensionnés jadis pour des volumes d'eau désormais plus importants et dépassant les projections de construction. 3. Un incivisme tenace de certains usagers de la route dont le non-respect des tonnages et des gabarits des véhicules contribue à peser sur la durée de vie des chaussées. 4. Enfin, une allocation financière, certes très importante, mais insuffisante pour poursuivre le bitumage ou encore entretenir un réseau routier qui est passé de 55 000 km de route en 1986 à 121 873 km sur.
Depuis juin dernier, le ministère des Transports a lancé une campagne de prévention routière dans les 10 régions du pays. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les récents commentaires de l'ancien président Donald Trump sur le fait que les États-Unis ont un ennemi de l'intérieur qu'il faut gérer ont déclenché une nouvelle vague de critiques de la part de ses adversaires. Mais la rhétorique dite incendiaire que les candidats républicains et démocrates utilisent pendant la campagne s'accompagne d'un avertissement des analystes. Cela pourrait nuire à leurs chances de victoire, selon eux. Le point avec Véronica Balderas Iglesias de la VOA. Le récit est de Jacques Aristide.
Alors que le vote anticipé est en cours dans plusieurs États, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, Kamala Harris, s'est adressée aux médias samedi, intensifiant ses critiques à l'encontre de son rival, l'ancien président Donald Trump.
Donald Trump s'est révélé de plus en plus instable et inapte.
Elle a décrit Donald Trump avec ses mots à plusieurs reprises depuis que le candidat républicain a fait des remarques controversées sur Fox News le 13 octobre lors d'une interview sur un éventuel second mandat à la Maison-Blanche. La chaîne a demandé à Donald Trump comment il se protégerait contre les bureaucrates qui tenteraient de le saper. Il a répondu comme suit.
Nous avons l'ennemi extérieur et ensuite nous avons l'ennemi de l'intérieur.
Il a ajouté ceci.
Nous avons des gens malades, des fous de la gauche radicale et cela devrait être facilement géré par la garde nationale, si nécessaire ou si c'est vraiment nécessaire par l'armée.
Donald Trump a plus tard précisé qu'il faisait allusion à ses rivaux démocrates, mais a répété des affirmations similaires lors d'un entretien le 16 octobre avec le Wall Street Journal. Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, un républicain, a été invité dans l'émission This Week de la chaîne ABC. Ici, a partagé son opinion sur les remarques de Donald Trump.
Vraiment ce genre de choses, ce genre d'exagération du langage, mais voyons la réalité. Il a été président pendant 4 ans. S'est-il attaqué à ses ennemis politiques? Je ne pense pas qu'il va mener de telles attaques. Il ne l'a pas fait pendant son premier mandat. Il ne le fera pas nécessairement lors d'un second.
La rhétorique qualifiée de plus en plus incendiaire, utilisée par les deux candidats à la présidentielle pour s'attaquer mutuellement, n'est pas forcément une formule gagnante pour attirer les votes, estime l'analyste politique Shannon O'Brien. De l'Université du Texas à Austin, elle a été interviewée via Zoom.
Je pense que cela peut être problématique si vous dépassez les limites et que vous dégoûtez les gens qui sont en quelque sorte au milieu. Je pense qu'il y aura peut-être des gens qui vont rester chez eux et croiser les bras, car ils en ont juste assez de tout ce processus.
Professeur O'Brien est également d'avis qu'il y a peu d'électeurs indécis à ce stade de la course, mais les équipes de campagne ne sont pas prêtes à abandonner l'idée de les convaincre. Donald Trump a prévu de tenir des événements de campagne en Caroline du Nord, en Géorgie et au Nevada cette semaine. Kamala Harris, qui a fêté ses 60 ans dimanche, a programmé ce lundi des séances de questions-réponses aux côtés de l'ancienne élue républicaine Liz Cheney en Pennsylvanie, dans le Wisconsin et au Michigan, dans le but d'obtenir le soutien des électeurs indécis, d'après son équipe de campagne.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Dan de Fulbert. Votre nouvelle émission tous les vendredis sur VOA Fufu Day. Dan de Fulbert braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dan de Fulbert, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dan de Fulbert, en FM, onde courte et sur la fréquence 17 630 kHz sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dan de Fulbert, c'est à partir du vendredi 30 août 2024 de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Fulful Day.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero, à la mise en onde, Joselle Morissin. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Ouagadougou sur 102.4 FM. À Douala, Radio Balafon. Raga FM, Kisangani. À Zinde, Niger, en Fanny FM et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.